Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il allait rentrer en France. Interpellé le 26 juillet à la frontière turco-irakienne, Lou Bureau, jeune journaliste français, plonge dans un enfer judiciaire. Accusé d'appartenance à une organisation terroriste dont l'administration turque refuse de donner le nom, il est incarcéré 51 jours durant et à l'isolement. Lou Bureau a été libéré le 17 septembre. À son retour, choqué, harassé, il s'est tu.
L'instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Bonjour Lou Bureau.
Bonjour.
Ben voilà, moi aussi je suis émue. Donc hier vous avez senti que vous pouviez commencer à parler, que désormais ce serait plus facile pour vous. Vous aviez besoin de quelques jours, hein?
Ouais, j'avais besoin de passer quelques jours avec mes proches, de prendre du temps pour me reposer, pour dormir et pour aussi me rendre compte de tout ce qui s'était passé ici en mon absence. Ça a été formidable mais je suis toujours aussi soulagé d'être de retour et véritablement heureux.
Voilà, et à vos côtés, on reçoit Christophe Deloire. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Secrétaire général de Reporters sans frontières, vous avez contribué à fortement médiatiser l'arrestation de Lou Bureau, juste avant lui celle de Mathias Depardon, photographe français, détenu un mois durant en Turquie. On va en reparler. Quel message envoie le pouvoir turc aux journalistes étrangers? On vous a reçu souvent pour parler de la situation de la presse en Turquie. Mais là, c'est celle des journalistes venus d'ailleurs pour couvrir l'affaire turque et les affaires turques dont on va parler. Lou Bureau, on va raconter votre histoire. Elle a été évidemment couverte pendant ces 51 jours par la rédaction de France Inter, couverte à la troisième personne. Aujourd'hui, on vous entend la raconter, vous, à la première personne. Vous alliez rentrer en France, je le disais, vos papiers étaient en règle. Vous n'imaginiez pas une seconde ce qui pouvait se passé. En fait, c'est un contrôle de routine, c'est un contrôle routier qui fait que ce voyage s'est interrompu.
Alors non, en fait, j'allais pas rentrer en France.
Vous entamiez le chemin du retour.
Exactement. Mais effectivement, je suis passé à la frontière kurdo-irakienne et j'ai été contrôlé parce qu'il était très tard, on était dans la nuit et généralement ça commence par un contrôle des visas et moi j'ai beaucoup de visas sur mon passeport et je pense que c'est ça qui a intrigué au départ. Mais après bon rapidement ça s'est emballé parce qu'en fait ils ont eu accès à mon profil Facebook, ils ont commencé à voir mes photos sur mon ordinateur.
Alors ils ont eu accès à votre profil Facebook, ouais. C'est-à-dire que au commissariat on vous demande d'ouvrir votre compte Facebook?
Tout à fait. On me le demande pas. En fait, ils ont accès directement à tout mon profil. Il y a plus de règles de confidentialité là. Dès le départ, je vois qu'ils sont sur mes images, que voilà.
Et qu'est-ce qui leur met la puce à l'oreille? On rentre dans le profil Facebook de tous les touristes qu'on arrête en Turquie dans un taxi collectif?
Non, je pense pas. Après, on est dans un endroit très particulier. Ouais. On est à la frontière entre l'Irak et la Turquie. Et forcément, il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas. On est dans une région où il y a une guerre qui sévit. Une guerre qui fait des victimes encore tous les jours et dont on parle très peu. Forcément qu'il y a un contrôle assidu au niveau des frontières, qui est aussi une frontière où transitent des armes, par exemple. Donc voilà, ça, je pense que mon profil a intrigué. Je pense qu'il y a une série de malchances aussi, puisque je suis arrivé dans la nuit parce que j'étais bloqué toute la journée. Il y a une série de choses qui ont fait qu'à ce moment donné, ils décident de pousser un peu plus l'investigation et tombent sur mes reportages, notamment en Syrie.
Alors, justement, le reportage, on va l'écouter. Ce reportage, vous aviez 22 ans, parce que vous en avez 27 aujourd'hui, quand je dis que vous êtes un jeune journaliste français. Vous aviez 22 ans, c'était en 2013, et vous étiez aux côtés des combattants kurdes syriens, qu'on appelle les YPG. C'est justement ces photos-là qui ont déclenché l'affaire qui a suivi.
Tous les matins, Abu Alan reproduit le même rituel. Un petit déjeuner en famille, et sa femme l'accompagne jusqu'à la voiture. Quelques mots, et le voici en route jusqu'à son lieu de travail. Sauf que depuis 2 ans, Abu Alan ne travaille plus dans les champs. Il se rend sur le front, car il appartient au YPG, l'armée des Kurdes de Syrie. Retour au campement. Sur les murs, le portrait d'Abdullah Öcalan, le leader de la cause kurde emprisonné en Turquie et dans tous les esprits. C'est l'heure du repas et des informations à la télé locale. Ce soir, on annonce la prise de 4 nouveaux villages. Pour tous ces hommes, la moindre victoire est une promesse de liberté.
Voilà, extrait de votre reportage diffusé à l'époque sur TV5 Monde. Il faut quand même expliquer en quelques mots ce que signifie de trouver un journaliste français aux côtés de YPG pour des policiers turcs.
Bah pour la Turquie, le YPG est une organisation terroriste, classée comme telle depuis 2014. Et voilà, pour eux, un journaliste qui va dans cette zone-là, en fait, est directement considéré comme terroriste puisqu'il n'y a pas de neutralité journalistique. D'ailleurs, les journalistes turcs ne s'y rendent pas. Quand ils en parlent, ils utilisent des images soit d'archives, soit des images directement issues du centre de médias des YPG, mais en floutant le logo, en fait.
Et pourtant, vous êtes relâché. Pourtant, vous êtes relâché après ce premier interrogatoire qui n'est pas vraiment une garde à vue. Vous êtes pourtant relâché. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Je suis relâché. On m'emmène à la station de bus de la ville. Mmh. Et voilà, je comprends que j'ai quand même échappé un peu belle à ce qui aurait pu se passer. Alors je prends un billet pour Istanbul, mais en fait 15 minutes plus tard, les policiers reviennent et me disent on a encore une ou deux questions à te poser. Et là, je comprends que c'est très compliqué parce que voilà, s'ils reviennent, c'est que ça va durer. Je comprends que effectivement, il n'y a pas juste une ou deux questions à me poser. Et dès que j'arrive à la station de police, on me dit voilà, tu vas à Şırnak, et Şırnak est la préfecture de la région.
Ouais.
Et là, voilà, je sais pas ce qui va se passer.
Donc on est en plein Kurdistan turc, on vous transfère là-bas, vous êtes menotté, comment ça se passe ?
À ce moment-là, je suis pas menotté.
Ouais.
À ce moment-là, j'ai affaire à des policiers qui sont plutôt amicales avec moi.
Ouais.
Ça se passe plutôt bien à ce moment-là, mais l'ambiance va vraiment changer du tout au tout une fois que j'arrive à Şırnak.
Ouais. Ouais. C'est-à-dire ?
Bah, j'arrive à Şırnak, je suis menotté, je suis emmené en garde à vue, on m'explique pas ce qui se passe, une garde à vue qui durera 6 jours et qui sera assez mouvementée, assez brutale, assez compliquée aussi physiquement parlant.
Pourquoi?
Parce que j'avais été très peu nourri, on avait des biscuits Oreo, une petite brique de jus d'orange.
Vous avez dormi pendant ces 6 jours?
J'ai dormi, bien sûr, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Je pense que, voilà, on est dans une petite cellule, à peu près 6 mètres carrés, avec des banquettes sur les côtés. On sait pas ce qui se passe. J'avais demandé tous les jours à appeler le consulat, ça m'était refusé.
Pendant 6 jours de garde à vue, vous avez pas pu contacter le consulat?
Non. À ce moment-là, absolument personne.
Vous avez pu contacter votre famille?
Non.
Pendant 6 jours de garde à vue?
Non. Ouais. Je suis resté, je savais pas ce qui allait se passer. Et en même temps, je gardais espoir parce que je savais qu'on était encore dans le stade de la garde à vue.
C'est
que
ça.
Il n'y a pas encore eu de procès. Je suis pas en prison, je suis en garde à vue et peut-être.
À partir de quand vous êtes déféré devant un juge?
Au bout de 6 jours, à la fin de la garde à vue, tout d'un coup, on me prévient pas, on m'emmène devant le juge et s'ensuit un procès qui est assez rapide, en fait, de 15-20 minutes, dans lequel on me dit, en fait, à la fin, vous êtes arrêté. Mais on me dit pas les raisons pour lesquelles je suis arrêté, on me dit juste voilà, on va vérifier votre matériel histoire de voir s'il y a des preuves d'une affiliation possible avec l'organisation YPG.
Donc là vous avez quand même un motif, c'est-à-dire justement ce lien d'appartenance avec une organisation terroriste. Voilà, c'est la seule chose que vous savez à ce moment-là.
Oui.
C'est la seule chose que vous savez à ce moment-là. Je me retourne peut-être vers Christophe Deloire. Vous avez souvent alerté la communauté internationale là-dessus, c'est-à-dire que depuis la tentative de coup d'État, les purges qui ont suivi, le système judiciaire turc est dans un état de désorganisation absolument effroyable. Et en plus, on est en état d'urgence et l'état d'urgence permet manifestement ce que le bureau vient de raconter, c'est-à-dire cette garde à vue en dehors de toutes les règles et de toutes les normes imaginables.
Je crois qu'on est aujourd'hui dans un système judiciaire en Turquie où les magistrats ont peur. Ils ont peur du pouvoir. Ils savent qu'eux-mêmes peuvent aller en détention. Lorsque de célèbres journalistes turcs, de Cumhuriyet, avaient été placés en détention en 2015, faisaient l'objet d'une plainte personnelle du président Erdogan qui demandait 2 peines de prison à vie. Au bout de quelques mois, la Cour constitutionnelle turque, qui était la plus haute juridiction, avait eu le courage de les relâcher. Et ce courage, certains magistrats l'ont payé. Ils se sont retrouvés à leur tour en détention. Donc évidemment, quand des magistrats locaux voient que des magistrats de la Cour constitutionnelle peuvent être placés en détention parce qu'ils ont pris une décision qui déplaît au pouvoir, ils se disent qu'eux-mêmes doivent faire attention. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où des magistrats font du zèle, des policiers font du zèle. Ils se disent, au fond, qu'il leur sera moins reproché d'avoir placé derrière les barreaux un innocent, sachant pertinemment que les personnes sont innocentes, que d'avoir laissé passer quelqu'un. Et puis à la fin des fins, et ça c'est l'absurdité, celui qui avait la clé qui permettait d'ouvrir le verrou de la cellule de l'Oubureau, c'était le président Erdogan lui-même. Bref, ça n'est pas un système judiciaire.
Alors, on va y revenir. L'Oubureau, à partir de quand? Parce que nous, c'est les nouvelles que nous avions en France au fur et à mesure. Je le redis hein, aux auditeurs, et ils le savent, cette affaire a été largement médiatisée. On a su que votre morale faiblissait méchamment, que vous étiez extrêmement mal en point, que vous perdiez espoir. À partir de quand vous perdez pied pendant cette incarcération qui suit ce procès donc de 15 minutes?
Bah, je perds pied en fait dans les jours et dans les semaines qui suivent directement mon incarcération parce que j'ai très peu d'informations. Voilà, je peux pas appeler ma famille, je peux pas appeler le consulat. Donc j'arrive en prison et je sais pas ce qui se passe en fait. Mmh. Déjà en tant que tel, la prison, je savais pas que.
Vous parlez turc ?
Non. Je parle deux trois mots de turc, mais c'est tout. Donc la communication est très compliquée. Ouais, je sais que je suis inculpé pour des charges de terrorisme, donc ça me fait très peur. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment l'incertitude et puis l'angoisse qui arrive, quoi.
Alors, au cours de la détention, vous avez pu communiquer quand et comment avec votre famille en France?
Tous les 15 jours, j'avais le droit à un appel de 15 minutes, de 10 minutes.
D'accord. Ouais,
donc j'appelais mon papa, qui généralement me donnait des nouvelles de l'extérieur, mais 10 minutes dans ces circonstances-là, c'est vraiment très très rapide.
Très très rapide. Vous aviez droit à un parloir? Vous aviez droit à un contact avec un avocat turc?
Oui, alors j'avais un parloir. Je pouvais aller au parloir voir mon avocat qui venait à peu près tous les 2-3 jours, qui venait me parler bien sûr de l'avancée judiciaire, mais aussi qui venait me réconforter. Un parloir qui est surveillé par un gardien qui est présent dans le parloir, plus enregistré. Donc en fait, l'avocat local ne peut pas me dire exactement tout ce qui se passe. Il y a des choses qui sont cachées.
Vous êtes à l'isolement, j'imagine, dû à ces inculpations pour terrorisme. Vous êtes mieux nourri que les Oreos et les briquettes de jus d'orange, je pense. Oui, un peu mieux.
Oui, les conditions de détention physique étaient plutôt bonnes.
Ouais.
Je suis bien nourri. J'ai ce qu'il faut en termes de produits de première nécessité, pour me doucher, pour me laver. Je suis dans une cellule qui fait à peu près 40 mètres carrés. Et qui est faite normalement pour à peu près 12 personnes. Donc moi voilà, je suis isolé, je suis tout seul. J'ai accès à une petite cour extérieure qui me permet de voir le ciel.
Et alors nous on a su en France que des livres vous avaient été envoyés et on a suivi le trajet de ces livres qu'on nous a dit par communiqué de presse ralenti par les fouilles. C'était nécessaire pour vous? C'était en fait, j'imagine, la seule...
C'était indispensable.
Indispensable.
C'était vraiment indispensable parce que... Déjà, c'est une occupation qui prend du temps et qui nous permet de penser à quelque chose d'autre. Et non, la lecture a vraiment été indispensable dans ma condition.
Donc ces livres vous sont arrivés?
Les livres sont arrivés en même temps que la première délégation française.
D'accord.
Donc la délégation est venue et a apporté des livres en même temps.
Qu'est-ce que vous avez lu en prison?
Alors j'ai lu, il y avait plusieurs romans, mais voilà, il y a un livre qui m'avait marqué parce que c'était drôle que je me retrouve avec ça. C'était une biographie de Louis de Funès que je ne connais absolument pas. C'est pas trop ma génération. Mais
je rappelle que Loubureau a 27 ans. À 27 ans, on regarde pas les films de Louis de Funès. Non, vous les avez pas vus avec votre papa quand vous étiez petit?
Non. Mais voilà.
Mais peut-être que maintenant vous allez les regarder.
Peut-être, ouais. Peut-être ça serait intéressant d'essayer de mettre en contraste le livre et les films.
Quand vous avez été arrêté dans cette région, vous étiez en reportage, Loubureau?
J'étais en reportage. Alors, j'étais pas en reportage au Kurdistan turc. Moi, je voulais travailler dans la région. Je suis plus axé sur le monde arabe, donc j'étais à Erbil, au Kurdistan irakien. Effectivement, j'attendais d'avoir des autorisations. Voilà, je travaillais dans la région de manière générale.
D'accord. Mais votre arrestation n'a rien à voir avec le reportage que vous aviez envie d'effectuer à cette époque-là?
Non, en fait, effectivement, j'étais pas venu en Turquie pour travailler sur le Kurdistan turc.
Et en même temps, je me retourne vers Christophe Deloire, donc secrétaire général de Reporters sans frontières. Mathias Depardon, quand il est arrêté, photoreporter français, quand il est arrêté au mois de mai, il est arrêté alors qu'il est en reportage pour le National Geographic. Il fait des photos de voyage du Tigre et de l'Euphrate. Là non plus, un sujet absolument pas politique. S'en suivra un mois de détention. Il rentre et il dit « Le message est très clair. Ne mettez plus les pieds, vous, journaliste étranger, dans cette région-là. »
Le message est clairement un message d'intimidation. C'est le pouvoir turc qui ne veut pas que soit couverte l'actualité dans de grandes régions, des régions très vastes de Turquie, au sud-est de la Turquie. C'est des régions dans lesquelles il y a de grandes violences. Alors des violences qui sont aussi évidemment perpétrées par des mouvements kurdes, et notamment le PKK qui est reconnu comme terroriste par la France et l'Union européenne. Mais très clairement, ça devient des formes de zones noires du point de vue de l'actualité, où les journalistes n'ont accès qu'au RIC, en encourant de très grands risques. Et évidemment, lorsque des zones du monde, des régions ne sont pas couvertes, des exactions peuvent être perpétrées. Et c'est une atteinte grave à la liberté de mouvement des journalistes et donc à la capacité du grand public à connaître ce qui s'y passe. Et ce qui se passe pour les journalistes qui sont pris, alors ça a été le cas de Mathias Depardon, de Lou Bureau, c'est que on leur reproche un peu n'importe quoi. C'était une infraction au franchissement de frontières, s'agissant de Mathias Depardon. Et d'ailleurs, il était en rétention administrative. Il n'y avait pas eu de procédure judiciaire, ce qui était le cas, et ce qui était plus grave et plus inquiétant pour le bureau. Et donc, ça lui était reproché, ça a été utilisé, mais à chaque fois, on se disait, mais peut-être qu'on va lui reprocher encore quelque chose de plus. Et c'est ce qui... on voit que les limites sont à chaque fois franchies. On passe de propagande terroriste à appartenance à une organisation terroriste. Et pourquoi pas espionnage. Et de fait, quand je dis pourquoi pas espionnage, c'est arrivé même pour des journalistes étrangers. Je pense aux journalistes allemands et turcs, puisqu'il a les doubles nationalités, Denis Kürsel. Et c'est des accusations qui sont gravissimes, mais qui sont portées aujourd'hui de manière très fréquente contre des journalistes turcs. Moi, j'étais il y a 2 semaines à un procès, le célèbre procès Cumhuriyet, c'est le plus grand, le plus ancien des journaux turcs. 17 de ces journalistes sont poursuivis pour propagande terroriste. Pour des choses tout à fait aberrantes. Moi, j'assistais à une audience de masse, c'était face à un immense centre de détention. J'ai jamais de ma vie vu un aussi grand centre de détention à 2 heures de route d'Istanbul, à Silivri. Il y avait là d'ailleurs des centaines d'avocats qui venaient en solidarité, mais le président a passé sa journée à poser des questions dont je n'imagine pas qu'il ait pu de bonne foi se dire qu'elles étaient intéressantes. Il demandait comment était le processus rédactionnel dans les rédactions, qui validait. Enfin, on aurait dit qu'il avait envie de devenir directeur de la rédaction. Et puis, il a posé à, par exemple, un immense journaliste, qui est éditorialiste, qui est francophone, Kadri Gürsel, qui était accusé d'avoir téléphoné à des personnes qui utilisait une application de cryptage, Bylock, qui aurait été utilisée par des membres de la confrérie Gülen, autrefois alliés, désormais ennemis d'Erdogan, lors du coup d'État. Donc, en gros, en Turquie, si vous êtes un journaliste, ça arrive aussi pour les avocats, ça arrive pour les magistrats, ça arrive pour des policiers, ça peut arriver à d'autres catégories professionnelles que les journalistes. Et que vous téléphonez à quelqu'un qui emploie une application, même si vous l'ignorez absolument, vous pouvez vous retrouver dans un box en détention, parce que c'est le cas de Kadri Gürsel, qui est en détention depuis 10 mois.
Lou Bureau, 51 jours d'incarcération, comment vous avez appris votre libération ?
Je l'ai apprise le jour du procès, voilà, le procès que... mon avocat m'a averti la veille qu'il y aurait une audience le lendemain, donc ça a été vraiment soudain, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'étais pas libre à ce moment-là, je pensais encore rester des semaines, voire des mois, voire des années, en fait, je savais pas. Mais voilà, le lendemain, voilà, il me dit, demain, il y a une audience, va falloir que tu sois relax, va falloir que tu plaides un peu pour toi. Et l'audience, en fait, a duré à peine 10 minutes. C'est-à-dire que les questions qui m'ont été posées ont été très rapides. Lui n'a quasiment même pas fait de plaidoyer. Il a parlé 30 secondes à peine. Et on m'a dit, vous êtes libre. On m'a dit, vous êtes libre, mais en même temps, on m'a remis les menottes le temps que je revienne à la prison.
Ouais.
Et que j'aille récupérer mes affaires, ce qui m'avait fait très peur parce que c'est une sensation vraiment étrange
de retourner en cellule.
Ouais. Oui, parce que du coup, j'avais déjà été libéré une première fois et recapturé, entre parenthèses. Et le fait de s'entendre dire vous êtes libéré et en même temps de se voir passer les menottes, c'est une sensation vraiment très étrange. Et voilà, j'ai eu très peur à ce moment-là, mais bon, une fois que j'étais à la prison, que j'ai commencé à prendre mes affaires, à sortir de la prison, voilà. Petit à petit, j'ai eu ce sentiment de soulagement qui, en fait, j'ai véritablement été soulagé totalement à partir du moment où je suis rentré dans l'avion.
Dans l'avion.
Puisqu'avant, en fait, voilà, il y avait toujours cette petite peur de rester en Turquie.
Merci beaucoup, Lou Bureau, de nous raconter votre histoire au micro de France Inter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là ?
Je sais pas. Pour le moment, les prochains mois vont être je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Mm. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de ces
prochains
mois.
Finir vos études ? Vous êtes étudiant belge en ce moment ?
Oui, exactement. J'ai ma soutenance à passer dans 10 jours.
On vous souhaite bonne chance pour cette soutenance.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu. Merci Christophe Deloire. Merci à toute l'équipe de l'Instant M et aussi à celle de la matinale de France Inter qui nous a aidé à monter cette émission.